Il revient à Tire-d'Aile, juché sur le cou de son ami Martin le Jarre. Niels Holgersson est tout petit, taille de lutin. Il est un des personnages les plus célèbres de la littérature pour enfants. Et à Lausanne, le Petit Théâtre accueille dès le 4 décembre la pièce Niels, le merveilleux voyage, Thierry.
Bonjour, oui, c'est une création de la compagnie romande Pied de Biche, à découvrir jusqu'au réveillon. L'an prochain, elle partira en tournée romande. Ce voyage est destiné à un public très jeune, dès 5 ans. C'est donc une version plutôt courte du roman Fleuve de l'autrice suédoise Selma Lagerlöf.
Son roman Le merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède, que vous avez là devant vous, un gros pavé, date de 1906. 3 ans plus tard, elle est la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature.
Et en 1914, Selma Lagerlöf est également la première femme admise à l'Académie suédoise. Elle a aussi œuvré pour la langue. Son parcours est celui d'une personnalité forte, institutrice dans un premier temps, féministe, engagée pour la cause des réfugiés juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, lesbienne, à une époque où cela n'allait vraiment pas de soi. J'ajouterais que Selma Lagerlöf a fini sa vie un peu comme Tolstoï, à la campagne, dirigeant les travaux des champs dans la maison de son enfance. Enfin, elle adopte aussi un enfant né pour de vrai, Niels Holgersson, c'est pas elle qui l'a baptisé, un enfant devenu ouvrier de chantier sur les gratte-ciels de Chicago, mais là c'est une autre histoire.
Alors rappelez-nous en deux mots l'histoire de Niels.
C'est un bon arien, il vit dans une ferme dans le sud de la Suède où il martyrise tous les animaux. Un jour il tombe sur le lutin de la maison, on dit aussi un tonte. Niels évidemment le taquine. La punition tombe, le voici devenu minuscule. Les rapports de force entre le garçon et les animaux s'inversent, bien évidemment. Niels tente par exemple de retenir Martin le Jarre qui veut lui s'enfuir avec les oies sauvages qui ont commencé leur migration de printemps. Ils s'envolent ensemble. C'est parti dès lors pour un tour complet de la Suède. Au retour, devenu sage et courageux, Niels retrouve sa taille. Cette histoire trouve une partie de son inspiration dans deux récits parus à la même époque historique. Le livre de la jungle, d'abord de Rudyard Kipling, en 1854, faisait converser enfants et animaux. Ça a inspiré Selma Lagerlöf. Et enfin, en 1877, les écoliers français, ça je l'ai découvert en m'informant sur ce bouquin, lisait Le Tour de France par deux enfants, ouvrage géographique mais aussi patriotique d'une certaine Augustine Fouillé, alias G. Bruno de son nom de plume, qui était elle aussi une pionnière du féminisme.
Alors voilà pour les antécédents de ce Niels Holgersson. Et comment adapter cette histoire en pièce de théâtre alors ?
On écoute les explications de Nicolas Yazgi. Il est le dramaturge de la compagnie Pied de Biche. On le retrouve juste après, pour la bonne bouche, une archive vintage, le générique du dessin animé Niels Holgersson.
Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays.
Nicolas Yazgi, quel est le plus grand défi lorsque l'on adapte un livre, une histoire comme Le merveilleux voyage de Niels Holgersson, 615 pages dans sa version intégrale traduite en français?
Je pense qu'il faut se demander à qui on s'adresse puis qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Comme pour des raisons relatives à la production, on a décidé que ce serait une pièce tout public dès 5 ans, il s'agit d'écrire une histoire qui peut tenir les enfants les plus jeunes en éveil, mais aussi parler au public plus âgé, c'est-à-dire les enfants un peu plus âgés, et les parents. Et pour celles d'entre vous qui connaissent le texte original, que moi j'ai travaillé à partir de la version anglaise, qui est un peu plus courte en mise en page, je crois qu'elle en fait 480, quelque chose comme ça. Il y a d'énormes descriptions, l'œuvre originale était une commande à la base des écoles suédoises, à une époque où il y avait une grande migration, une pauvreté, et une migration vers les États-Unis entre autres, pour redécouvrir le riche héritage folklorique de la Suède, comme dans beaucoup de pays d'Europe à la fin du 19e, c'est une période où on invente l'imaginaire des nations, etc. Dans le texte, il y a de très très longues parties que moi je trouve belles, en fait, de description du folklore, de la nature, de la géographie, du pays suédois, pour que les enfants des écoles à l'époque se rendent compte de la magie de ce pays. Il faut imaginer qu'on n'avait pas de télévision, etc. Donc ça, ce sont des parties qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, pour une adaptation en Suisse, on peut tout de suite les exclure, disons. Et puis ensuite, donc, pour un spectacle aussi court, il y a des contraintes très très pragmatiques de temps. Le spectacle peut faire, disons, au maximum une heure, et je crois qu'il s'agit d'essayer d'imaginer pour soi, parce qu'une fois de plus, une adaptation, moi je vois ça comme une réinvention, pas comme un appauvrissement ou un rétrécissement de l'histoire originale. quelles sont les caractéristiques essentielles de l'histoire telle que je la ressens. Et puis, pour moi, c'est la transformation d'un jeune enfant qui, dans le texte original, est plus âgé, il a 11 ou 12 ans. Il commence de manière extrêmement égocentrée, c'est un sale gamin. Il fait du mal aux animaux, il pense qu'à lui, il joue des tours à tout le monde, il désobéit à ses parents, etc. Et par ce long voyage, quelque part initiatique, il va comprendre l'interdépendance des êtres, des animaux, des humains, il va découvrir la valeur de l'entraide, et il va, quelque part, se transformer en un jeune adulte complètement différent du caractère original.
Est-ce qu'on peut dire, Nicolas Yazghi, que dans ce livre, il y a quasi 4 livres en un? Un roman d'apprentissage, vous venez de le dire, aussi un roman d'aventure à suspense, hein, un voyage à dos doigts avec un renard un peu méchant, mais qu'il y a aussi une sorte de sous-texte écologico-philosophique sur le rapport aux animaux, notamment à la nature, et enfin, vous l'avez cité, ce fameux manuel de géographie.
Absolument, c'est tout à fait ça. Et dans donc les choix que j'ai faits pour écrire l'adaptation, il y a ce roman initiatique qui est au cœur, mais qui n'est pas... Il n'y a pas des points sur les i pour le dire. Ça prend la forme de la grande histoire, de la magnifique histoire, qui est aussi une ode à la liberté, qui amène beaucoup de rêves. Imaginez pour un enfant de parcourir le monde à vol d'oie, de tout voir de haut, etc. C'est magnifique. Donc ça prend la forme de cette aventure. Et puis, il y a effectivement aussi, je pense que c'est très très important aujourd'hui, on re-questionne et on se rend compte de tous ces rapports. On se rend compte aujourd'hui que l'être humain qui s'est cru au centre très longtemps de la création n'y est pas du tout, qu'il est une partie de cette interdépendance magnifique qui est notre planète, et que je crois que tout le monde aujourd'hui doit s'interroger d'une manière ou d'une autre, à sa manière, sans moralisation, etc. Quelle est notre place et comment on cohabite sur cette planète.
Ce livre date de 1906-1907. C'était donc une commande de l'instruction publique suédoise, ou plutôt de l'Association nationale des enseignants suédois. Est-ce que c'est un roman précurseur? Parce que justement, quand on parle d'écologie, de rapport au vivant, de rapport aux êtres vivants, à la nature, aux arbres et autres, on a l'impression que Selma Lagerlöf décrit quelque chose qui est le centre de nos préoccupations actuelles. Je pense à des philosophes comme Vinciane Després ou d'autres, où précisément on repense notre rapport au vivant. Nicolas Yazghi.
Alors oui et non. Je pense que Selma Lagerlöf était une écrivain de génie, c'est vraiment, elle a écrit d'autres textes magnifiques, et donc comme tous les grands écrivains, les grandes écrivaines, elle a une sensibilité à des choses qui ne sont peut-être pas dominantes à son époque, et oui, elle interroge des choses avec beaucoup de subtilité, et beaucoup de sensibilité, et beaucoup d'intelligence et de poésie, mais en même temps, si on regarde l'histoire de la pensée humaine, il y a eu d'autres moments dans d'autres cultures, ou même chez nous, on s'est interrogé sur ces rapports, donc je pense que, disons, si on prend le grand essor moderniste après les Lumières et l'industrialisation, etc., oui, c'est précurseur, par contre, si on prend une lunette plus grande, il y a d'autres moments aussi où ces questions se sont posées.
Qu'est-ce que tu dirais si un géant arrivait et jouait avec toi comme tu joues avec lui?
Il joue bien avec les souris, le chat.
Mais enfin, il n'est plus rien, lui, c'est son instinct. Toi, c'est ton choix. Et choisir de faire du mal à un être vivant... Bon, on doit vraiment t'expliquer.
Oh, ça va. Je m'amusais.
Un extrait de ce spectacle Nils, le merveilleux voyage à voir au Petit Théâtre de Lausanne. On entendait ici Nicolas Yazghi à votre micro, Thierry Sartori. Il est le dramaturge de cette compagnie Pied de Biche. Et cette pièce est donc inspirée du roman de Selma Lagerlöf, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson.
Oui, et sur la scène du Petit Théâtre, vous venez de le citer, on y trouve des marionnettes et des comédiens en costume, un décor plein d'astuces et de panneaux rétractables. Je me suis rendu dans une répétition publique, c'est là où j'ai pris le son. On y retrouve Frédéric Osier, co-metteur en scène du spectacle avec Julie Burnier.
On a travaillé en fait avec des scénographes qui sont moitié suisses, moitié anglais. Ils sont installés à Brighton, au sud de l'Angleterre. On s'est dit, tiens, ça serait intéressant de travailler avec eux et peut-être un faiseur de marionnettes anglais pour que tout l'univers esthétique soit traité à Brighton. Comme ça, ils peuvent travailler ensemble facilement. Et on a fait des recherches sur le net et on est tombé sur un faiseur de marionnettes qui s'appelle Nick Barnes, Et donc c'est lui qui a fait la création de ces magnifiques bêtes que vous avez vues. Et ils ont pu un peu vraiment travailler main dans la main pour créer l'univers esthétique du spectacle avec la costumière Amandine Rouchouin.
Avant, il fallait, Fadei Kosi, répartir les rôles entre les personnages qui seront des marionnettes et les personnages qui seront réellement présents, être humains sur le plateau. Qu'est-ce qui a déterminé le quoi du comment, sachant qu'il fallait quand même, pour ce spectacle-là, organiser un voyage aérien, quelques scènes d'intérieur, et puis des choses qui se passent au bord de la mer. Enfin, il y a quand même beaucoup d'actions dans beaucoup de lieux différents. Comment vous avez choisi ?
On savait qu'on voulait traiter le petit Nils marionnettiquement. Donc on avait d'abord un acteur qui joue quand il est grand et une marionnette quand il est petit. Et par rapport à ça, du coup, on s'est dit, tiens, si on a un petit Nils qui a cette taille-là, ben, on voudrait des beaux oiseaux qui soient bien articulés. Et du coup, c'est clair qu'on voulait pas faire des acteurs en costume pour faire les oies, quoi. Parce que déjà, il y a déjà un décalage au niveau de la taille. Et en plus, bah, tout l'intérêt du travail marionnettique était de travailler avec ces belles créatures et essayer de leur donner une fluidité, d'engendrer le vol avec des marionnettes. Parce que nous, dans les travaux qu'on a fait avant, c'était plutôt justement des marionnettes plutôt terriennes, des choses comme ça, des lip-sync puppets et des choses comme ça. Donc là, c'était un nouveau challenge pour nous.
Lip-sync puppets, oui. Pardon, de Kezako.
Oui, les lip-sync puppets, c'est un peu les marionnettes qu'on connaît un peu classiquement des Muppet Show, c'est-à-dire ceux qui sont avec une grosse bouche, où on a de la main dans la tête pour les faire parler.
D'accord. Par contre, le méchant, lui, n'est pas une papette, il n'est pas une marionnette, ce méchant-là, Smir.
Oui, Smir, non, Smir, il est interprété par le danseur et acteur Philippe Chausson. Et on adore, nous, les univers hybrides qui mélangent le travail d'acteur et le travail de marionnette. Donc on savait qu'on voulait pour le méchant, pour cette épée de Damoclès qui est Smir, on voulait un acteur pour créer un jeu comme ça riche entre la petite marionnette et un grand méchant Smir.
Oh ! Alerte ! Renard ! Arrête-toi, sale bête ! Lâche-le ! Hé, fais tes prières ! Rouquin ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Mais lâche-le, je te dis ! Sinon, je te transforme en bonnet de fourrure !
J'ai même vu un hommage très décalé que ne remarquera peut-être pas le public de 5 ans à Freddy les griffes de la nuit, Frédéric Osier.
Oui, peut-être. C'est par rapport à la veste que vous dites ça, non, c'est pas.
Non. À un moment donné, il y a Smir qui gratte le plancher avec ses ongles et avec ses griffes. Et je me suis dit, mais ça vient d'un film d'épouvante. Vous avez envie de faire peur aux enfants.
C'est vrai que nous, on aime bien faire peur aux enfants et on aime aussi beaucoup les faire rire et les toucher. Donc, il faut l'un pour accéder à l'autre, souvent. Donc, c'est vrai qu'on se permet un peu, mais ça reste quand même. On désamorce très vite avec l'humour. Comme vous le voyez, Smir, il est à la fois, il fait un peu peur, mais il est aussi un peu ridicule, avec son vieux look de rocker.
Tu vas bien finir par avoir sommeil, petit.
Et on riait effectivement dans la salle, on l'entend bien. On entendait ici le comédien et marionnettiste Frédéric Osier à votre micro, Thierry Sartretti. Et puis un extrait de ce spectacle, Nils le merveilleux voyage. Qui joue ce Nils Holgersson qu'on a
C'est entendu. La comédienne Pascale Gudel, qui parfois l'incarne en tant que comédienne et parfois en tant que montreuse de marionnettes.
C'est donc au Petit Théâtre de Lausanne qu'on vous emmène avec ce merveilleux voyage de Nils. Vous nous emmenez sur les traces du petit héros en Suède, Thierry Sartretti.
Oui, presque en Suède, dans une enclave de la Suède, tout au bout de la cité de Mérin, près de Genève. L'adresse porte un nom de circonstance, l'esplanade des récréations. Attention Nicolas, on change de langue.
Nils Holgerssons underbara resa.
Vad var det jag sa? Det här blir inte lätt.
Je suis Lovisa Myrman-White. Je suis née en Suède. Et je suis venue en France il y a 23 ans. Je suis venue parce que je fais le snowboard. Après, j'ai eu mon diplôme d'enseignement suédois en sport et langue. Et j'ai trouvé l'école suédoise à Genève, il y a 13 ans maintenant.
Une école, Lovisa Mirman-White, où le sigle de l'école, le logo, c'est précisément Nils Holgersson sur son noix.
Nils Holgersson, c'est un symbole pour la Suède. Et on est très fiers parce que c'est Selma Lagerlöf qui a écrit cette histoire. Elle a eu la Nobel Prize.
C'est la première femme qui a eu le prix Nobel.
Exactement, exactement. Donc, nous sommes très fiers de cette histoire et que Selma Lagerlöf vient de la Suède.
Ah, mais det var väl inte så farligt. Det var ju bara på skoj. Jag kan dra dig i kammen en gång till om du har lust.
Det är så fan lika elak, Nils.
Est-ce que c'est en Suède un livre qui est toujours lu par les enfants et est-ce qu'il est toujours lu dans le cadre de l'école, par exemple, puisque ce livre servait aussi à apprendre la géographie aux petites Suédoises et aux petits Suédois, Lovisa Mirman-White?
C'est tout à fait quelque chose qui est actuel. En Suède, pour l'instant, moi, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai vu un théâtre avec Nils Holgersson, il n'y a pas longtemps. Et aussi dans les écoles, moi, j'ai lu l'histoire quand j'étais petite et on lit toujours. On a un prof ici qui a lu l'année dernière dans son programme. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on ait besoin de lire, mais on dit que c'est quelque chose qui est de part de notre trésor culturel et qu'on aime bien. Je pense qu'il y a pas mal de professeurs qui lisent cette histoire à l'école. Parce que c'est une des livres que tu dois connaître.
C'est une histoire particulière. Elle raconte une Suède d'autrefois, une Suède qui est encore très pauvre, où les gens meurent de faim parfois, ou meurent de maladie, immigrent aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de travail en Suède. Mm. Est-ce que ça parle encore aux enfants suédois, Lovisa Mirman-White?
Oui, parce que en fait, c'est très important de savoir son histoire pour savoir où tu vas après. Et c'est aussi une histoire qui est assez intéressante par rapport, dramaturgiquement, avec beaucoup d'intrigues. Donc, ce n'est pas nécessairement le sujet autour, c'est juste les façons que c'est un livre qui est écrit, et c'est une qualité et on peut toujours faire les liens avec les choses qui actuellement, aujourd'hui, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'immigrants qui doivent immigrer parce qu'ils sont pauvres aussi. Donc même si le livre est vieux, ça, c'est tout à fait actuel.
Dans ce livre, il y a 2 personnes qui meurent. Il y a une vieille dame et puis il y a un petit garçon qui meurt de maladie qui s'appelle Mats. Est-ce que cette histoire-là, elle est dure et difficile pour les enfants ou au contraire, c'est important qu'on apprenne aussi aux enfants? Et là, je pose la question à une pédagogue de savoir aussi de parler de ces choses-là avec des enfants.
Bah, tout à fait. Ici, sur l'école suédoise, on trouve que c'est très important de parler la mort. Et en Suède, on commence très tôt. C'est vers 6 ans à peu près que les enfants commencent de comprendre le concept que tu vas mourir. Et donc, on trouve que c'est important qu'on aussi parle avec les enfants, qu'est-ce qui se passe. Et aussi, c'est la vérité. Peut-être qu'il y a les enfants dans l'école qui a même eu un parent ou quelqu'un dans la famille qui est mort. Et pour exprimer ses sentiments, c'est très important aussi de aussi exprimer son histoire ou qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Oui, c'est important.
Vem har gjort det?
Så lite, Nanny.
Tomten har gjort det. Han har blivit en pyssling. Rätt åt honom. Han drog mig alltid i kammen.
Det är sant.
Jajamän.
Ah oui, c'est pas mal en VO.
Oui, c'est bien. Nils
Holgersson. On entendait l'enseignante suédoise Lovisa Mirman-White à votre micro, Thierry.
Est-ce que vous croyez au hasard, Nicolas? L'arrière-grand-père, maternel de Lovisa Mirman-White était cordonnier dans le Värmland, le canton où vivait précisément Selma Lagerlöf. La créatrice de Nils, il faut le savoir, avait une malformation des hanches et lui fallait donc des chaussures orthopédiques. Eh bien, c'est le grand-père de Lovisa qui allait livrer chez elle les chaussures. Même à vol d'oie, le monde est finalement très petit.
Magnifique. Et on a parlé aujourd'hui donc du plus connu des héros suédois, Nils Holgersson. Enfin, le plus connu des héros masculins.
Eh oui, il faudrait surtout pas oublier sa compatriote, Fifi Brin d'Acier, Pippi Langstrumpf en allemand, créée par une autre autrice suédoise, Astrid Lindgren, un peu plus tard.
Et on en a parlé dans Nectar, je vous renvoie à une émission qu'on avait faite autour d'Astrid Lindgren et de Fifi Brin d'Acier, tout à fait passionnante. Nils, le merveilleux voyage se joue au Petit Théâtre de Lausanne du 4 au 31 décembre. C'est recommandé à partir de 5 ans. La pièce partira ensuite en tournée.
À Yverdon-les-Bains, Théâtre Benoît-Besson, ça c'est le 11 janvier. À Villars-sur-Glâne, à Nuitony, les 7 et 8 mars. Et enfin à l'Oriental de Vevey, les 14 et 15 mars.
On y vole ?
On y vole.
Merci Thierry. À bientôt.